Interview.
2 jours.
Bonjour, ici R. Dubois et c'est l'heure de l'interview avec Laureline Fontaine. Bonjour.
Bonjour.
Laureline Fontaine, vous êtes professeure de constitution à la Sorbonne Nouvelle et vous êtes ici pour nous présenter un ouvrage commun et qui s'intitule « Penser le bon gouvernement au XXIe siècle d'une gouvernementalité l'autre ». Un titre assez abstrait, je dirais. Peut-on définir un peu ce titre?
Oui, ce titre, surtout d'une gouvernementalité l'autre, qui est une forme d'expression littéraire qui n'est pas si commune, mais qui justement nous semblait intéressante parce que elle n'était pas tout à fait commune. Mais l'idée, c'est que quand on commence à s'interroger sur ce qu'est ou ce que n'est pas un bon gouvernement, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs points d'entrée. Alors, tout le monde ne va pas penser à partir du même critère, ne va pas penser exactement les mêmes objets et n'aura pas forcément la même idée que l'autre du gouvernement. Et c'est en réunissant donc différentes contributions, puisqu'il y a beaucoup d'auteurs, hein, il y a plus de 15 auteurs dans cet ouvrage, que cette idée nous est venue, que voilà, il n'y a pas une manière homogène, unique, de penser aujourd'hui, au XXIe siècle, le bon gouvernement. Donc c'est de là dont vient le titre.
D'ailleurs, cette notion de gouvernement, quelle est son origine?
Alors, ça, c'est pas du tout évident à retracer. L'idée de gouvernement, elle vient à partir du moment, elle surgit dans l'histoire à partir du moment où naissent les premières sociétés politiques, où l'idée qu'on va confier à certaines personnes en particulier, au sein du groupe, le pouvoir de prendre certaines décisions pour tous les autres. À partir du moment où on commence à penser cela, va surgir la notion de gouvernement. Mais c'est évidemment difficile de dater la naissance exacte de cette idée-là, mais pour le monde occidental, on peut dire qu'on la pense déjà dans l'Antiquité, évidemment, même si le monde oriental, par exemple, n'est pas en reste. Hein, il y a quand même pas mal de réflexions très tôt dans l'histoire aussi sur le gouvernement et sur les méthodes de gouvernement, peut-être de manière plus large sur la manière d'exercer le pouvoir. Donc, et il se trouve qu'avec ça, rapidement aussi, a surgi le questionnement sur le bon gouvernement. Et il y a une expression qui est rentrée rapidement aussi dans l'histoire, c'est l'idée de quête du bon gouvernement. Parce que finalement, depuis qu'il y a des gouvernements, on cherche aussi comment organiser, comment constituer un bon gouvernement. D'où ce titre que nous avons donné, « Penser le bon gouvernement au XXIe siècle », qui fait écho aussi à ce que c'est une quête qui est très longue, très ancienne et qui apparemment n'est pas terminée. Alors, je voudrais quand même dire un petit mot à ce sujet, parce que cet ouvrage et surtout l'idée de réunir plusieurs personnes autour de cette question est venue de ce que j'avais entendu en 2023, le président de la République, à l'occasion du 65e anniversaire de la Constitution de 1958, donc la Constitution française, qui organise l'exercice du pouvoir politique en France. Donc, lors du 65e anniversaire en 2023, le 4 octobre 2023 de cette Constitution, le président de la République avait dit par deux fois dans son discours 1958, donc la Constitution de 1958, clôt la quête du bon gouvernement. Alors, c'était quand j'ai entendu ça, moi, c'était ça a résonné très fort, puisque je me suis dit, ah ben, comme constitutionnaliste, de manière un petit peu ironique, enfin même très ironique, je me suis dit, damned, je ne le savais pas, je ne savais pas que finalement nous étions arrivés au meilleur des régimes. Et c'était, oui, évidemment très ironique, puisque on voit bien dans l'espace social que l'exercice du pouvoir est extrêmement contesté, qu'il y a des luttes sociales très fortes, qu'on se pose constamment la question de savoir s'il faut ou non réformer les institutions. Donc cette affirmation, peut-être en forme de pari hein, pour le président de la République, même si ça n'a eu aucun écho ensuite vraiment médiatique, hein, cette affirmation, mais donc qui résonnait en forme de pari, m'a donné l'idée de réunir, d'abord à l'occasion d'un colloque, surtout des universitaires. Alors, il n'y avait pas que des universitaires, mais c'était quand même essentiellement le cas, autour de cette question. Et donc, avec mes amis Trajan Sandou, qui est historien, et Violaine Delteil, qui est socio-économiste, on a conçu donc un colloque pluridisciplinaire. Donc, on a invité des politistes, des historiens, des philosophes, des économistes, des juristes, évidemment, puisque moi, je suis juriste, je suis spécialiste de droit constitutionnel. Donc, à venir... dire comment... Il y avait aussi une journaliste, j'y repense, qui était Anne-Cécile Robert, qui est directrice adjointe du Monde diplomatique. Donc comment et avec quels outils ils pensent le bon gouvernement. Voilà.
Alors, cette notion de gouvernement aussi, c'est un désir qui émane de gens de pouvoir, ou alors il y a aussi une population demandeuse?
C'est toujours difficile à... Alors, dans l'histoire, et depuis l'Antiquité, on ne peut avoir de traces que de la part de personnes qui sont lettrées, hein, forcément, et donc qui ont écrit. On retrouve évidemment chez des penseurs comme Platon ou comme Aristote des interrogations sur le bon gouvernement. Je dirais même que c'est ce qui a originé ce questionnement, ce que j'ai appelé, moi, on va dire, les études de politique comparée. C'est-à-dire que quand on regarde le travail d'Aristote, Aristote, qu'est-ce qu'il a fait? Il a observé les différents gouvernements qui étaient présents, qui étaient à l'œuvre dans les différentes cités grecques, et il a commencé à essayer de les comparer. Et il a essayé d'établir différents modèles et de mettre en relation les types de gouvernement avec les types de population. Ce que fait à sa manière aussi Platon. Lorsqu'on regarde un peu plus tard aussi la pensée chinoise, on voit bien aussi qu'il y a toujours des comparaisons à la fois historiques et géographiques entre les différents types de gouvernement. Si on remonte beaucoup plus près dans l'histoire... Et si on regarde par exemple Montesquieu au XVIIIe siècle, dans son très fameux ouvrage qui s'intitule « De l'esprit des lois », eh bien c'est pareil. Il fait un tour du monde, et historique pour observer comment on pense l'exercice du pouvoir, comment on pense les lois, et il met ça en relation à chaque fois avec les populations, avec leur culture, leurs mœurs, avec le climat. C'est une théorie assez connue de Montesquieu, la théorie des climats, la géographie, le relief, etc. Et donc, lui aussi, il essaye d'établir différents modèles de gouvernement, ce qui convient le mieux et à qui. Alors d'ailleurs, c'est une chose très intéressante, c'est que si on regarde toutes ces pensées-là, on s'aperçoit que personne vraiment n'a posé l'existence d'un seul modèle de bon gouvernement et que tous ont pensé le bon gouvernement en lien avec une époque, avec une culture, avec des mœurs. C'est-à-dire que, et avec peut-être aussi parfois des objectifs. C'est-à-dire sur le modèle de si on veut ça, alors tel gouvernement pourrait être pensé comme le meilleur. Ça, c'est intéressant à mettre en relation avec ce qui se passe aujourd'hui. Parce que finalement, aujourd'hui, est-ce qu'on pense un bon gouvernement en soi ou est-ce qu'on essaye de le penser par rapport à une époque, par rapport à ce qu'on souhaite. L'autre fois, quand j'ai présenté ce livre, je crois, quand nous avons présenté ce livre d'ailleurs avec Violaine Delteil et Trajan Sandou, devant des étudiants, une étudiante a posé une question qui, de mon point de vue, était vraiment fondamentale. Elle a dit, mais finalement, pourquoi est-ce que, par principe, on dirait que la monarchie, c'est un mauvais régime? Et elle dit, après tout, on peut tout à fait avoir un roi. Elle ne proposait pas un modèle, hein, mais c'était vraiment en forme d'interrogation un petit peu malicieuse. Elle disait, on pourrait avoir un roi et qui exercerait le pouvoir de telle sorte que la société serait très bien organisée, que les besoins de tous seraient assurés et que la société vivrait relativement en paix dans une situation où les inégalités ne seraient pas fortement marquées. Et que, après tout, finalement, est-ce que la démocratie est un idéal ? Alors, j'ai trouvé que cette question était très intéressante parce que, en fait, elle faisait écho à ce que souvent, quand on dit « il faut la démocratie, il faut plus de démocratie », on ne se demande pas forcément pourquoi. On peut être tenté de répondre si on dit finalement pourquoi la démocratie, c'est bien. Est-ce que beaucoup de gens ont des réponses autres que parce que c'est bien, hein, en forme de tautologie. C'est un peu peut-être une des clés aussi de lecture des différentes contributions. Il y a un certain nombre d'auteurs qui se posent la question. Alors, j'ai pris cet exemple caricatural entre la monarchie et la démocratie. Personne dans l'ouvrage ici n'a ce type d'interrogation. Mais chacun pense les outils ou le régime en fonction aussi de ce qui est recherché. Par exemple, il y a toute la dernière partie de l'ouvrage est assez importante parce qu'elle regroupe 5 contributions. Cette dernière partie porte sur le vivant et sur notre rapport au vivant. Est-ce qu'il faut gouverner pour le vivant ? Est-ce qu'il faut gouverner avec le vivant ? Est-ce que il faut gouverner, on va dire, malgré le vivant ? Et ça, ce sont des interrogations qui permettent de dépasser les simples affirmations qui ne reposent finalement pas sur une véritable réflexion et qui parfois risquent de nous mener un peu facilement dans certaines impasses.
Il est fait mention dans la quatrième de couverture de cette question. Peut-on penser à partir d'une fable ? Qu'est-ce qu'on peut peut-être désigner par ce terme de fable ? C'est en quelque sorte une certaine morale à avoir et puis peut-être aussi d'en dégager une certaine prudence. Pourquoi ce terme utilisé pour présenter ce livre ?
Alors, vous savez, quand on écrit, on a parfois, des intentions de premier degré. Et parfois, on a plusieurs intentions. Alors, ce ne sont pas véritablement des intentions cachées. Mais en tout cas, ce sont des intentions qui nous caractérisent lorsqu'on écrit, même si elles ne sont pas toujours immédiatement perceptibles. Alors, le terme de fable, ici, correspond à ça. Il a ce premier degré. Et ce premier degré correspond... Alors, pour le coup, ce premier degré, mais qui ne renvoie pas tout de suite à l'idée commune, La fable, en réalité, c'est une histoire qu'on raconte. Et nous, on fait référence à l'histoire qu'aurait voulu nous raconter donc Ambrogio Lorenzetti, qui est l'auteur de fresques, qui donc date du XIVe siècle, hein, de 1338, et qui orne l'une des pièces, la salle de la paix, notamment, du Palazzo Pubblico, de la ville de Sienne, en Italie, qui n'est pas une très grande pièce, hein, c'est vraiment assez, assez petit. Elle est un tout petit peu plus grande que la pièce dans laquelle nous sommes aujourd'hui pour l'entretien. Et donc, sur les murs, donc, on a quatre pans qui ont été par la suite appelés allégories du bon et du mauvais gouvernement. Et on voit aussi bien représenter des sages, la tempérance, la justice, que aussi le diable, l'avarice, etc. Et donc, on a conclu que Ambrogio Lorenzetti avait voulu figurer ce que pouvait être un bon et mauvais gouvernement comme un message adressé à l'époque aux gouvernants, comme une sorte de message, et peut-être aussi comme un avertissement. Et alors, on a beaucoup écrit sur cette fresque. Il y a récemment, d'ailleurs, un ouvrage d'un historien français qui est assez connu, et l'historien est peut-être l'ouvrage aussi, qui s'appelle Patrick Boucheron. Patrick Boucheron, qui est historien au Collège de France, et qui a écrit ce livre qui s'appelle « Conjurer la peur ».« Conjurer la peur », ça veut dire, en fait, représenter le pouvoir de telle sorte que le corps social puisse s'en trouver, en quelque sorte, rassuré. Rassuré par cette manière de configurer et d'exercer le pouvoir. Donc, notre question, peut-on penser à partir d'une fable, c'est est-ce que, en regardant la fresque, on peut avoir les éléments pertinents et suffisants pour penser le bon gouvernement? Certains le pensent, et certains de nos contributeurs le pensent, même si les interprétations de la fresque restent encore aujourd'hui controversées, parce qu'en réalité, on n'a pas de documents écrits. Ambrogio Lorenzetti ne nous a pas expliqué par un document ce qu'il a voulu représenter sur cette fresque, ni ceux qui lui ont commandé cette fresque. Donc, les interprétations sont controversées et chacun va y voir quelque chose. Donc, c'était notre question de départ. Peut-on penser à partir de cette fable-là, de cette histoire que l'on nous raconte? Et puis, il y avait une deuxième idée, puisque le terme de fable est un terme que moi-même j'ai employé dans mon dernier livre, dont le titre résonne en écho avec celui-ci, puisque je l'avais intitulé « La Constitution au XXIe siècle ». Et je parle dans ce livre de fables à propos des bienfaits que représenterait, depuis le XVIIIe siècle, depuis qu'on écrit des constitutions, le phénomène constitutionnel. Et je présente le constitutionnalisme en tant qu'il aurait produit des bienfaits dans nos sociétés, comme une fable, c'est-à-dire comme une histoire que l'on raconte, mais que l'on raconte aux enfants, en quelque sorte. Donc, il y avait un peu ce double sens de cette idée-là. Peut-on penser à partir d'une fable? Et précisément, dans l'ouvrage précédent, qui était mon ouvrage personnel, celui-ci, j'essaye d'expliquer que si on continue à penser le pouvoir à partir de la fable du constitutionnalisme, eh bien nécessairement on le pensera mal. Donc c'était un peu dans cet esprit-là aussi, une sorte de prolongement de cette question-là que je voulais amener avec mes collègues et amis, comme on dit, dans le milieu universitaire.
Alors, il y a cette présentation de cette fresque hein, intitulée « Allégorie et effet du bon et du mauvais gouvernement ». C'est une nécessité toujours aujourd'hui pour la population, pour même les gens de pouvoir. Vous êtes toujours en quête, même si, comme vous le disiez, Emmanuel Macron a clos cette quête en 2023. On peut se rendre compte que par la suite, cette affirmation est fausse, hein, puisqu'il a, il a en quelque sorte démoli cette, cette notion de bon pouvoir, de bon gouvernement.
Oui, alors, il y a un historien dans le livre qui s'appelle Gabriel Martinez-Gros, qui est spécialiste de la pensée orientale, qui nous rappelle quelque chose qui me semble extrêmement important. Il nous dit que dans la philosophie orientale, c'est notamment un spécialiste, Gabriel Martinez-Gros, de la pensée d'Ibn Khaldoun, il nous rappelle que finalement, l'idée même de gouvernement, pour revenir à la première question, est presque synonyme d'échec et de violence. Finalement, s'il faut penser le bon gouvernement, c'est qu'on a déjà échoué à organiser une bonne société. Ça, je trouve que c'est que c'était une réflexion très, très pertinente pour nous, très utile, que finalement, est-ce que penser un bon gouvernement, c'est une sorte de moindre mal ? Mais on peut évidemment avoir une toute autre idée. En tout cas, il nous rappelle ça, que l'idée de gouvernement vient avec la, enfin que l'idée de violence même vient avec celle de gouvernement. Et je pense que finalement, ce qu'on peut observer depuis quelques années peut effectivement éventuellement rendre justice à cette philosophie. Mais plus largement, enfin plus occidentalement, je dirais, on voit bien que depuis quelque temps, il y a. Alors, quand je dis depuis quelque temps, je ne parle pas sur le mode c'était mieux avant. Il y a en fait différents registres. On n'est pas toujours sur le même registre. Et donc, on a changé de registre il y a quelque temps. Et ce registre-là consiste, pour les gouvernants, à s'interroger non pas sur le bon gouvernement au sens où implicitement on l'entend depuis tout à l'heure. C'est-à-dire le bon gouvernement, finalement, c'est celui qui réalise la paix sociale, voire la justice sociale, soyons fous, et qui donc n'est pas très violent, n'est pas trop violent et favorise une forme d'harmonie au sein du corps social.
Il y a un consensus.
Je ne sais pas si c'est un consensus, mais on peut dire que si le gouvernement, au sens idéal du terme, est bon, effectivement, il n'y aura pas de conflit majeur. Depuis quelque temps, les gouvernants ne semblent pas penser du tout le bon gouvernement dans ce sens-là. Il le penserait plutôt comme celui qui, pour eux, de leur point de vue, est efficace. Et le bon gouvernement, c'est celui qui leur permet, qui permet aux gouvernants de faire ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils veulent, pour mettre en place, pour mettre en œuvre les idées qu'ils ont. Et c'est très visible quand on regarde où que ce soit, que l'on regarde en France, aux États-Unis, en Russie, en Italie, en Espagne. Vraiment, l'idée, c'est est-ce que les institutions sont organisées de telle sorte que nous, gouvernants, nous pouvons faire ce que nous voulons. Et dans ce sens, la réflexion, l'affirmation d'Emmanuel Macron est extrêmement logique. 1958 clôt la quête du bon gouvernement, pour lui, évidemment, puisque on peut dire qu'il n'a eu qu'à gagner des institutions depuis qu'il a été élu président de la République, et même avant, lorsqu'il était ministre, il n'a eu qu'à gagner de ces institutions, parce que finalement, jusqu'à aujourd'hui, alors on peut commencer à penser les choses un peu différemment, et encore, il a pu faire à peu près ce qu'il voulait. L'exemple, pour le cas français, emblématique, étant l'adoption de la réforme des retraites contre non seulement la volonté du corps social, mais aussi contre la volonté même des institutions normalement qui décident, à savoir par exemple l'Assemblée nationale. Donc pour lui, ces institutions sont très efficaces et donc on comprend qu'elles constituent pour lui un bon gouvernement. Et voyez, ça, en fait, ça rejoint ce que je disais tout au début, c'est-à-dire que finalement, quand j'expliquais le titre d'une gouvernementalité, l'autre, en fait, chacun va penser le bon gouvernement de sa fenêtre, de ses intérêts éventuellement, de ses connaissances. Et c'est ça qui est frappant. Est-ce qu'on peut réussir à faire se croiser ces différentes pensées dans une sorte de, d'idéal communautaire? Alors, quand on regarde, si on lit vraiment au scalpel les différentes contributions, on peut imaginer que non, que ça, qu'a priori, ça sera extrêmement délicat. Je vais prendre un exemple qui est évidemment celui que je connais le mieux. Et d'ailleurs, quand on a parfois à faire des présentations du livre, bon, pour l'instant, on a fait deux présentations du livre, mais il y en a deux autres qui sont programmées en librairie, notamment. Quand on fait des présentations, on se rend compte qu'il y a quand même une question qui revient, c'est celle du rôle du droit. Parce que moi, je suis juriste, donc forcément, je pense le droit, mais... évidemment, tous les autres, qu'ils soient philosophes, historiens, économistes, sont aussi amenés à penser le droit, puisque c'est aussi un outil avec lequel ils ont affaire, nécessairement. Et on se rend compte que, ben, en fonction de ce dont on parle, on ne va pas penser toujours exactement le droit de la même manière, et on va même parfois rentrer en contradiction avec soi-même, sans s'en rendre compte. Et cette contradiction-là, alors parfois, certaines contradictions sont nécessaires. Elles peuvent coexister. Deux choses contradictoires peuvent coexister, ça arrive. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et s'agissant du droit, c'est une question qu'on peut se poser. C'est-à-dire que, alors ça paraît peut-être un peu abstrait ce que je raconte, mais l'idée c'est, est-ce que, par exemple, est-ce que le droit doit être respecté par les gouvernants pour qu'on puisse considérer qu'on a, à minima, une condition du bon gouvernement. Pas une condition suffisante, mais une condition nécessaire. Beaucoup de gens, spontanément, vont le penser, notamment lorsque on s'aperçoit que des gouvernants affirment, ont tendance à affirmer haut et fort que le respect du droit, c'est finalement quelque chose de secondaire. Trump tend à tordre le droit assez facilement. Les gouvernants français l'ont tordu dans tous les sens depuis quelques années. Et c'est la même chose dans beaucoup d'autres pays. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Parce que respecter le droit, c'est une chose. Mais là, on oublie parfois, quand on pose les choses de cette manière simple, que le droit, ce n'est pas quelque chose de neutre, d'indépendant de nous, de complètement même extérieur. C'est quelque chose qui est complètement lié au gouvernant. C'est-à-dire, qui fait le droit ? Ben, qui fait le droit, ce sont les gouvernants, justement. Et quel est ce droit qu'ils font ? Eh bien, il est changeant, discutable, souvent, parce que le droit n'a pas n'importe quel contenu. Il y a de bonnes règles et puis il y a de mauvaises règles. Donc respecter le droit, c'est une chose, mais de quel droit parlons-nous ? Le respect du droit était un mot d'ordre, mais justement, pas de n'importe quel droit. Je fais exprès de recourir à l'extrême, mais c'était un mot d'ordre du régime nazi. On obéissait à la règle telle qu'elle avait été posée par l'instance supérieure. Donc le respect du droit, en soi, n'est pas une garantie d'un bon gouvernement. Tout dépend de quel droit il s'agit. Et c'est ça... Toute la difficulté, c'est que quelquefois, quand par exemple tous ceux qui pensent le vivant, eh bien, parfois vont être amené à dire que le droit, c'est le respect du droit, c'est nécessaire, et en même temps, n'ont qu'une seule envie, c'est de changer le droit. Alors, les deux peuvent aller de pair, effectivement, dire il faut respecter le droit, mais à condition que ce droit soit celui qui est conforme à tel ou tel principe, à tel ou tel objectif. Mais vous voyez en fait que il est extrêmement, et je crois que c'est ça aussi l'avantage d'un ouvrage comme ça, qui contient des contributions quand même assez différentes. Je prends quand même un ou deux exemples. Je vois devant moi, dans le sommaire, une contribution de Pierre Lesnel qui s'intitule « De l'état de droit au droit de l'état ». L'exemple de l'exercice de la liberté d'expression, qui, je pense, met bien en avant cette problématique dont je viens de parler. Ou alors, je peux voir ici contribution sur le gouvernement mondial, point d'interrogation, par le politiste Jean-Christophe Graz, qui essaye de penser, d'expliquer que penser aujourd'hui, au XXIe siècle, le bon gouvernement suppose de tenir compte de ce que nous sommes dans une société mondialisée, certains diraient globalisée, et que penser à l'échelle locale, sans penser l'échelle nationale et l'échelle mondiale, revient à penser en pure perte. Et que nous sommes dans un système avec des interactions permanentes. Et voilà.
Et d'ailleurs, cette notion de bon gouvernement aussi tendrait-elle à peut-être rassurer une population, quelles que soient ses générations, ça peut être des gens jeunes ou des gens plus âgés, avec un regard différent sur ce qui l'entoure dans la société où il vit. C'est aussi cette approche qui est opérée pour cette notion du bon gouvernement. Je parlais de consensus tout à l'heure, mais ouais. C'est peut-être pas le bon mot, comme vous disiez.
Cette question met en avant une chose, c'est peut-être la question de l'échange, du dialogue entre les personnes, puisque finalement on vit dans une société extrêmement compartimentée, où il est de plus en plus difficile de se croiser. Ici, on s'informe à partir de tels médias, ailleurs à partir de tel autre média, et on ne veut pas entendre parler du média de l'autre. Ici, on se croise dans tel milieu, ailleurs c'est tel autre milieu. Et je crois que j'avais déjà eu l'occasion de le dire ici, mais peut-être que je vais me répéter, mais peu importe. Moi, je suis assez frappée de voir que si on regarde, par exemple, une chaîne de télévision dite d'information continue, eh bien, à quel point l'image que cette chaîne nous renvoie de ce qui se passe dans l'espace social est complètement déformée. C'est-à-dire que certaines choses sont... c'est-à-dire que certaines parties de la société sont prises pour le tout de cette société. Et ça a de l'effet. Ça a de l'effet, celui, par exemple, de faire penser à tous qui ne se reconnaissent pas dans cette image déformée de la société, qu'ils sont isolés, qu'ils sont seuls. Et alors qu'en réalité, ils ne le sont pas tant que ça, mais l'image qu'ils ont de la société est complètement déformée. Et donc, ça crée chez eux un sentiment qui est contraire à la réalité. Parce que quand on se déplace beaucoup dans l'espace social, quand on discute avec beaucoup de personnes, quand on observe un peu les choses, on se rend compte que, précisément, l'image donnée par la chaîne en question est déformée. Et que si on avait plus conscience que ça n'était pas la réalité, on se sentirait moins seul. on s'en sentirait moins seul. Et donc, on ferait peut-être plus, comme on dit, on ferait peut-être plus réseau. On ferait peut-être plus toile. Et certaines choses ou certaines idées n'auraient peut-être pas un effet aussi important, alors même qu'il n'est, il est loin d'être certain que ça représente une majorité dans le corps social. Donc, cette idée de consensus, en fait, peut-être que le bon gouvernement, ce serait déjà de faire en sorte que les uns et les autres aient des uns et des autres une image plus fidèle par rapport à ce qui se passe. Et je rejoins peut-être un peu là, mais sans rejoindre complètement le débat sur la désinformation et sur ce qui fait, comment dire, sur ce qui fait effet, en effet, dans une société. C'est-à-dire que finalement, tout le monde produit quelque chose, tous azimuts, et on a le sentiment d'une espèce de bazar absolu. Mais dans ce bazar, voilà, on s'aperçoit quand même que dans ce bazar, il y a quand même des choses qui fonctionnent, des choses qui marchent plus que d'autres. Quand bien même, qui ont l'ascendant, on va dire, quand bien même, elles ne seraient pas véritablement représentatives. Mais toute la difficulté, c'est justement de le savoir, parce que finalement, on ne sait pas. Il y a une espèce d'incompréhension, on se sent perdu. Et alors, quand même, quitte à être un peu longue, ça me fait penser à une chose. C'est que il y a peut-être une chose aussi à entendre sur le bon gouvernement. C'est-à-dire que quand on parle du bon gouvernement, quand on parle de gouvernement, tout simplement, on oublie parfois de dire ou de penser sur quoi le gouvernement a-t-il pouvoir. On parle parfois de la puissance, quel est le pouvoir du gouvernement, mais la question, c'est sur quoi a-t-il le pouvoir? J'entends, vous allez comprendre très, très, très simplement. Le pouvoir dont on parle beaucoup, c'est le pouvoir politique. Mais le pouvoir politique, ce n'est pas le tout du pouvoir, loin de là. Le pouvoir économique est si important qu'il en est venu à largement surpasser le pouvoir politique. Et on vient de parler des médias. Le pouvoir économique, ici, aujourd'hui, implique un façonnage des médias de telle sorte que certaines questions, certaines idées vont avoir plus de poids que d'autres. Et ici, penser le bon gouvernement au sens simplement d'institutions politiques devient quelque chose de complètement insuffisant. Parce que si on ne pense pas le pouvoir politique en articulation avec le pouvoir économique, eh bien, il ne va pas se passer grand-chose du point de vue, justement, des évolutions sociales, de l'organisation économique. D'autant plus que, par exemple, aujourd'hui, ce que j'appelle, moi, l'agenda idéologique de beaucoup de gouvernants au sens politique du terme a été calqué sur l'agenda idéologique d'acteurs économiques très puissants. La fameuse idée de Startup Nation d'Emmanuel Macron, qu'est-ce que c'est si ce n'est la reprise de l'idéologie des géants de la tech telle qu'elle est portée depuis les années 70. Et donc là, on a une sorte de fusion idéologique, de mise au service du pouvoir politique à l'égard du pouvoir économique. Donc là encore, penser à meilleur gouvernement supposerait de prendre en compte toutes ces questions-là. Et donc implicitement, on a un certain nombre d'idées là-dessus. On a une contribution sur l'économie de Patrick Duhaid et de Nicolas Prokhovas, qui sont économistes. On a une contribution d'Anne-Marie Genène sur le contrôle des idées par les réseaux sociaux et par le contrôle des réseaux, par l'écoute, la surveillance de la parole, qui est absolument vraiment passionnante. Voilà, donc le lien qu'on peut faire entre le gouvernement et le corps social et les individus, eh bien, passe en fait par beaucoup d'autres choses que penser le gouvernement lui-même, tout seul.
Alors, il y a cet ajout de titre d'une gouvernementalité, l'autre. Quel sens donner à ce terme ?
Ben, le sens, c'est celui de ce que, au fil des pages, on passe d'une modalité de pensée à une autre. Ici, on pense le droit, ailleurs, on pense l'économie, ailleurs, on pense la science aussi. Quel est le rôle de la science, le rôle des experts dans le gouvernement ? Et donc, c'est toutes ces variations qui sont induites par ce titre d'une gouvernementalité l'autre. On n'a pas la solution. Hein. On n'a pas la solution dans ce livre. On essaye simplement de poser que peut-être il ne suffit pas de dire que deux ou trois principes simples suffiraient justement à faire un bon gouvernement au XXIe siècle, j'entends. C'est-à-dire que on ne vit pas dans une société, dans un groupe humain replié sur lui, indépendant des autres groupes humains, à petite échelle. C'est pas du tout ça qui se passe. Différentes échelles. Il y a un pluralisme extraordinaire, mais au sens primitif du terme, des personnes et des idées, des activités, des potentialités, des dangers. On parlait des grandes technologies tout à l'heure, la question du climat, la question pour certains de la sécurité. Donc tout cela, tous ces éléments-là font que nous pensons à peu près impossible, quand on dit impossible, nous pensons presque même funeste la possibilité qu'une personne ou deux ou trois, peu importe, arrive en disant « mais j'ai la solution et voilà, il suffit de faire ça ou ça ».
Par rapport à l'illustration de l'ouvrage hein, sur la couverture, avec ce peintre suprématiste, Casimir Malevitch, et qui propose donc cette composition suprématiste. Pourquoi avoir utilisé cette image alors que dans l'ouvrage est référée surtout cette fresque de Ambrogio Lorenzetti ?
Oui, on aurait pu choisir la fresque, on s'est interrogé. Ça nous a paru peut-être trop réducteur au regard des contributions. C'est-à-dire que finalement, quelques-uns, en effet, partent de la fresque dans l'ouvrage, mais pas tous. Et même, je dirais, la majorité ne part pas de la fresque. Notre introduction qui s'intitule « À propos de fresques et frasques gouvernementales » repart aussi de la fresque, mais on ne peut pas dire que ce soit le fil rouge de l'ouvrage. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point, c'est qu'en réalité, cette image, ce n'est pas celle que nous avions choisie au départ. Alors peut-être, là, je vais rentrer dans la cuisine de l'édition d'un ouvrage. Mais donc l'éditeur, Marie Martin, donc a plusieurs collections de livres. Et dans la collection dans laquelle nous publions l'ouvrage, il y a une charte qui consiste à mettre en couverture une représentation graphique, un tableau, libre de droit. Donc, ça fait deux conditions. Donc, il fallait qu'on trouve une image d'abord libre de droit. On avait proposé, au début, c'était une photo qu'on voulait, et finalement, comme ce n'était pas dans la charte, il fallait mettre une représentation graphique qui ne soit pas une photo. Donc, on a cherché une image libre de droit et on avait proposé tout à fait autre chose, quelque chose de beaucoup plus provoquant, en tout cas de beaucoup plus interrogeant, qui susciterait pas mal de questions. C'était une sorte de parodie du tableau d'Édouard Manet, Olympia, où donc il y a une femme noire qui évente une femme, une sorte d'odalisque. Et sauf que là, dans le tableau, l'odalisque était remplacé par la figure d'un vieil homme qui se trouvait à l'époque de la Troisième République être un sénateur qui était assez connu, qui a été aussi, je crois qu'il avait été une fois ministre, c'était Victor Augagneur, et qui s'était fait connaître aussi parce qu'il avait administré une colonie française. Et précisément, c'était ça aussi qu'on voulait mettre en avant. Mais le caractère trop peut-être polémique ou provocant de l'image a été refusé par l'éditeur. Donc, il a fallu qu'on choisisse une autre image. Et ça a été assez difficile parce que précisément, il fallait à la fois peut-être... on avait compris qu'on ne pouvait plus jouer sur le caractère un peu provocant, que donc il fallait une image pour le coup plus lisse, plus consensuelle. Donc on a choisi celle-ci finalement parce que il y a différentes formes, rectangle, rond, carré, triangle en quelque sorte, ligne. De différentes couleurs, d'autant plus, et qui ont la particularité pour un certain nombre d'entre elles de ne pas se rejoindre. Il y a trois formes l'une sur l'autre, mais il y en a trois autres qui sont espacées, toutes de couleurs différentes. Et ça nous paraissait justement bien pouvoir éventuellement illustrer le principe de la pensée sur le bon gouvernement, c'est-à-dire des différentes formes, différentes couleurs qui ne se rejoignent pas forcément et qui donc en soi illustrent peut-être la problématique à retenir de cette question-là.
On peut peut-être indiquer l'éditeur, donc c'est Marais Martin.
Voilà, Marais Martin, donc « Penser le bon gouvernement au XXIe siècle, d'une gouvernementalité l'autre », coédité donc par Violaine Delteil, Traian Sandou et moi-même. C'est paru le 16 octobre 2025 et je pense que vous pouvez le trouver un peu partout.
Peut-être même à la librairie Mosaïque.
Et peut-être même à la librairie Mosaïque. Je crois qu'il a été commandé, oui, en effet.
C'est un livre qui nécessite un temps pour sa lecture, en tout cas. Et je vous remercie, Laureline Fontaine, de votre venue au studio de RDWA pour nous présenter donc ce recueil de textes intitulé « Penser le bon gouvernement au XXIe siècle ». Et je vous souhaite une bonne soirée.
Vous aussi, merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Alors vous disiez, c'était un camion au bord de la mer. Oui, c'est ça, une brume légère, partout répandue, elle traverse un plateau nu. C'est ça, oui, c'est ça, il traverse le tout et la mer, on l'entend, le bruit de la mer, loin, fort, oui, terrible le vent, personne ne peut résister au vent. Qu'est-ce que dit la femme qui est montée, que le monde aille à sa perte, c'est la seule politique qui me monte à la chapeur. Elle dit quoi encore la dame, elle dit tout et dans tout, partout tout le temps en même temps, partout tout le temps en même temps, c'est là devant nous sur l'écran. Oui, elle voulait mourir d'amour, elle est morte d'amour, puis elle a vécu, elle a attendu 10, 20, 30, 100 ans, oui elle a vécu. Thank you.